Bienvenue dans la ville de Bolbec. Nous vous invitons à vous promener tout au long de ce parcours en compagnie de Louis Degénétet, fils de M. Auguste Degénétet, qui fonda au XIXe siècle une importante usine de textile qui façonna l'urbanisme et l'histoire de la ville. Vous êtes en 1905 en compagnie de Louise et Javotte, deux lavandières qui ont remporté le concours des rosières. C'est le concours de vertu des Catherinettes, les célibataires de l'époque. Le prix est attribué à la jeune fille la plus vertueuse que l'on nommait à Bolbec Miss Textile. Ne pouvant être départagées, Louise et Javotte ont donc gagné toutes deux ce concours, ce qui leur donne le droit de faire la visite de la ville en compagnie de Louis Degénétet, alors directeur de l'usine du même nom. À tout moment, vous pouvez mettre la bande audio en pause et reprendre. Un petit signal sonore vous indiquera le moment précis pour repartir d'un point à un autre du parcours.
Bonjour Monsieur Louis, vous vous la benfagotez pour la visite?
Eh bien nous aussi, nous avons sorti notre beau linge.
Bonjour mesdames, je vais vous faire voir du pays. Venez donc découvrir le Bolbec de mon enfance, le Bolbec de mes aïeux. Suivez-moi vers la ruelle Papavoine.
Bonne balade à vous. Suivez les bobines. Le dernier meunier fut M. Séminel en 1960. Vous pouvez voir actuellement la roue en métal ainsi que l'élévation essentée de planches. Ce terme normand de charpenterie se dit des travaux pour garnir de bois des parties découvertes. En 1998, il aura fallu 550 heures de travail pour la restauration du moulin qui pèse 2 tonnes et dont la roue mesure 5 mètres de diamètre.
Eh ben ce moulin-là, il n'est pas de la première jeunesse.
Avançons un peu, car ici c'est trop bruyant avec l'eau du moulin.
Dites-nous tout, monsieur Degénétet.
C'est le grand moulin qui était un moulin à blé et à foulon. Et comme vous le dites, il est ancien. Il date du XIIe siècle. Il a subi beaucoup de modifications. Il a été détruit pendant l'incendie.
Quel incendie ?
L'incendie de 1765. Nous en reparlerons plus tard. Revenons à nos moutons.
Quels moutons ?
À notre moulin, quoi. Après l'incendie, il a bien été changé. Il a même possédé une roue de côté, car il a été un moulin à foulon et un moulin à blé.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, un moulin à foulon ?
Mais tu sais bien, c'est pour le linge, les draps.
Oui, tout à fait, madame Javotte. Ça servait à battre le linge, les draps et à dégraisser la laine. Et un jour, le moulin à foulon s'est arrêté pour qu'il n'y ait plus que le moulin à blé.
Eh ben, vous en savez des choses.
Venez donc, mesdames, nous allons voir l'église.
C'est pourtant pas l'heure de la messe. Pour qui qu'on y va?
Mais tais-toi donc et écoute le monsieur. Tu vois pas que c'est lui qui a l'éducation.
Si vous n'êtes pas encore arrivé devant l'église de Bolbec, nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture en arrivant devant l'église.
Venez donc voir notre belle église Saint-Michel. Je vous parlais tout à l'heure de l'incendie du 14 juillet 1765 qui ravagea la ville. L'ancienne église fut donc détruite.
Ben, j'avais entendu parler de ça. Ils en causent encore, les anciens.
Quel incendie !
Mais tu sais bien, celui qui a ravagé la ville, pardi.
Voyez-vous, mesdames, comme il a fallu reconstruire une autre église, eh bien, c'est l'architecte Pierre Patte qui fit les plans de la reconstruction. Sur son projet, il avait prévu de construire une flèche et un clocher.
Ben oui, l'architecte, Pierre Patte, l'avait prévu pour le sommet de l'église, une flèche puis un clocher. Tout bête, comme partout que ça se fait.
Sauf que le duc de Charost...
Le seigneur de Bolbec à cette époque-là, c'est ça?
Oui. Le duc de Charost lui fit monter ce clocher alors que le porche était déjà édifié. Le duc voulait un clocher avec un dôme. L'architecte va donc modifier son projet, car le duc de Charost est très puissant.
On peut dire que le duc, la ville a patte sur son église.
L'église Saint-Michel date de 1770. Elle est classée au titre de monument historique en 1992. Cet édifice, construit en 7 ans, comporte un déséquilibre architectural. En effet, on peut voir, sous les côtés de la nef, en contrebas du clocher sur la partie haute, la première baie inachevée. En 1774, les travaux démarrent selon les plans de l'architecte Pierre Patte. L'église est bénie en 1781 et consacrée à Saint-Michel. Les vitraux et le décor intérieur sont de la fin du XIXe siècle. L'orgue provient de l'église Sainte-Croix-Saint-Ouen de Rouen. C'est un orgue baroque datant de 1631. Celui-ci a été restauré à la fin des années 1990. Il est classé monument historique en 1992, tout comme l'église. Faites demi-tour et dirigez-vous vers les rues piétonnes, rue de la République. Si vous levez les yeux dans la rue de la République, vous pouvez observer, entre le numéro 10 et le numéro 16, la plus belle façade de Bolbec, qui était l'ancien hôtel Durand, du nom d'un riche marchand bolbecais, qui racheta au duc de Charost, seigneur de Bolbec, les décombres de son pied-à-terre. Vous pouvez voir les détails du fronton de cette façade, composé de mascarons à tête de loup et à tête grimaçante. Ces pilastres de style ionique, ces guirlandes composées de fleurs, de feuillages et de fruits, nommées encapes, et ces consoles à cannelures, des motifs sculptés dans la pierre. Cette décoration lui vaut d'être inscrit au monument historique. Vous pouvez voir, sur votre droite, le splendide immeuble aux 18 rues de la République, qui fut construit à la fin du XIXe siècle pour le tissage coutier.
Prenons la rue Pasteur et allons vers le temple.
En attendant d'être devant le temple, nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture en arrivant devant celui-ci.
En France, c'est en 1517 que les idées réformées affichées par Luther arrivent, et très rapidement dans le pays de Caux.
Mais qu'est-ce que c'est que cette maison-là ?
Eh bien, de te le dire, c'est le temple.
Et qui c'est ça, Luther ?
Luther, c'est le fondateur du protestantisme.
J'en trave que de chi, le protestantisme.
Puis les idées réformées, qu'est-ce que c'est que ça ?
Ce sont les idées qui viennent des protestants. En France, les protestants n'étaient pas bien vus, car ils n'étaient pas catholiques. Et le roi de l'époque, il préférait les catholiques.
Oh bah ça !
À Bolbec, nombreux sont ceux qui se sont convertis au protestantisme. Dans la région de Bolbec, nous commençons à voir des protestants vers 1528. Tout d'abord, les Bolbecais tiennent des réunions secrètes dans leur maison. Un jour, ils décident de fonder un temple dans la localité de Linteau en 1571.
Bon, bah c'est pas beau tout ça, mais et dans Bolbec ?
Attendez, on y vient. À l'époque, les Bolbecais protestants avaient des cousins en Angleterre. Et c'est un cousin d'Angleterre, de Londres, qui va léguer de l'argent pour faire construire le temple.
Ah bon ?
Et enfin, le 6 décembre 1797, le pasteur Allègre accepte de devenir pasteur de Bolbec et le premier culte du temple débuta le jour de Noël 1797.
Oh, alors !
Observez la façade du temple dont le portique est de style néoclassique. Il est inscrit au titre de monument historique depuis 1986. Le fronton est orné de sculptures composées d'une Bible ouverte sur une croix inclinée, accompagnée à droite d'un cep de vigne et à gauche d'une gerbe de blé, symbolisant les éléments eucharistiques, le pain et le vin. À côté du cep, vous remarquerez une aiguière, symbole du baptême.
Eh ben dites donc, ça a pas été une manche à faire, ça, hein ?
Venez, mesdames, poursuivons notre promenade et dirigeons-nous vers le Val-Augré.
Poursuivez rue Pasteur en traversant la rue René-Coty. empruntez la rue du Val-Augré en traversant la rue Jean Massé.
Qu'est-ce que ça monte? Je m'en ferai bien une petite pause, hein.
T'as rien, feignant. Allez, tu montes-t'y?
J'y vas, j'y vas.
T'y vas-t'y? T'y vas-t'y pas?
J'y vas.
Je vais dire l'histoire d'une jolie fille normande qui s'appelait Marie-Lou et qui était petite comme tout. Quand à l'école il fallait qu'elle se rende, son copain le grand Lucas lui disait on n'y va pas. Faisons l'école buissonnière, nous baignerons dans la rivière. Au lieu d'apprendre des leçons, on va prendre des papillons. J'y vas-y pas, j'y vas-y, il faut-y pas, il faut-y. Si j'y vas pas, le maître il verra, et puis chez moi tout le monde il me saura. Mais je vais m'embêter là-bas, si j'y vas, tous les petits oiseaux chantaient, n'y va pas. Quel beau soleil, dit le grand Lucas, viens donc cueillir des lilas. Marie-Lou te dit comme ça, à l'école on y lit, on lit là, on lit pas, j'y vas. J'y vas. Et pour elle se disputait. Elle avait de la mesure et de la cadence. Le gars Lucas en était fou. Il a dit, t'aimes-tu les bijoux? Si tu veux, viens demain toute seule. Je t'attendrai derrière la meule. Dans le pré au père Léonore, je te donnerai une bague en or. J'y vas-y pas, j'y vas-y. Il faut-y pas, il faut-y. Si j'y vas pas, quoi donc qui dira? Mais si j'y vas, quoi que c'est qui me fera? La mère, elle dit toujours, prends garde au gant. Je voudrais bien savoir là-dessous, quoi qu'il y a. Il me donnera la bague si je vais là-bas. Je le romps point si j'y vas pas. Marie-Lou se dit comme ça. Moi, les bijoux, j'aime ça. Tant pis, j'y vas, j'y vas, j'y vas. J'y vas. Le lendemain, lors de faire discuter. À ton gant, qu'est-ce que tu donneras, toi? Ben, ta fille, quoi qu'elle aura, toi. Enfin, ils sont passés devant monsieur le maire. Puis après des bons gueuletons, des danses et des belles chansons, chez eux, ils se déshabillèrent et soufflèrent la lumière. Elle monta dans un grand lit, hésitant, Lucas se dit, j'y vas-y pas, j'y vas-y. Tu viens-t'y pas, qu'elle y dit. Comme il disait plus rien dans les draps, Marie-Lou dit, prends-moi dans tes bras. Mais à ce moment-là, en bas, quel fracas, tous les invités appelaient le gars Lucas. Et sans doute pour qu'il ne s'endorme pas, lui chantait ce refrain-là.
Dis-pas, Lucas, si tu vas pas, Lucas, j'y vas. Dis-pas, Lucas, si tu vas pas, Lucas, j'y vas.
Si vous n'êtes pas encore arrivé au rond-point, nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture en arrivant devant celui-ci.
Arrivé au carrefour du 6 juin 1944, veuillez emprunter les passages piétons et entrer dans le parc du Val-Augré.
Nous voici arrivés devant le fameux château du Val-Augré, dans lequel il n'y a jamais eu ni prince ni princesse.
Oh !
Entrons dans le parc et admirons ce charmant jardin.
L'aménagement du parc date de 1973, avec la volonté de sauvegarder les arbres d'essence rare. Vous pouvez voir le cèdre bleu, planté par des associations américaines et françaises contre le racisme. Un autre cèdre, un Cedrus atlantica glauca pendula, est planté lors du 20e anniversaire du jumelage franco-allemand.
Dans ce domaine, un chanoine nommé Gauthier Maloiseau fonde ici une léproserie aussi appelée maladrerie.
Drôle de nom. Un chanoine, est-il pas un cousin au pêche-à-foin de la ferme du bout là-bas?
Non, vous n'y êtes pas, mademoiselle Louise. Un chanoine, c'est un religieux. Il a fondé ici, en 1108, le Val aux Malades, ou Val au Gré, car les murs sont fabriqués avec le grès des carrières voisines.
Ah, chercher des murs bien épais, pour pas laisser passer la maladie.
En 1752, les bâtiments devenus trop abîmés sont démolis pour être reconstruits. Les travaux vont durer 4 ans. Et savez-vous ce que les religieux ont trouvé à la démolition?
Ils y ont trouvé la maladie, la lèpre, à force de l'y enfermer dans les grands murs aussi.
Mais non, mademoiselle Louise, ils ont trouvé des pièces d'or. 159 exactement, d'une valeur de 1800 livres. Vous rendez-vous compte?
Oh, un chat alors!
Ben mais, quand la grange s'est écroulée, j'avais rien trouvé. Sinon, un des gars au pêche à foin qui roupillait.
Passez devant le château du Val-Augret et faites le tour du parc en suivant les bobines. Cette ancienne maladrerie, nommée le Val-Augret, est fondée par le prieuré de Saint-Jacques du Val-Augret au XIIe siècle. Il recouvrait un vaste domaine ecclésiastique avec une église aujourd'hui disparue. Le Val-Augret a ensuite abrité une communauté de chanoines, puis, de nouveau, des hospices au XVIIe et XVIIIe siècle. Devenu propriété privée au XIXe siècle, il sera occupé par l'armée allemande, puis reconverti dans un centre féminin d'apprentissage après la Seconde Guerre mondiale. Il finira par être racheté par la ville pour devenir un espace culturel. Ressortez par là où vous êtes entré.
Si vous n'êtes pas encore revenu au rond-point, nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture en ressortant par là où vous êtes entré.
Au carrefour du 6 juin 1944, prendre l'avenue Louis Debray, direction Déchetterie, puis remonter en suivant les bobines.
Attention aux petits baisons!
Nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture dès que vous prendrez la rue du Général Blondel à 200 mètres sur votre droite.
La tiporque, ça remonte!
Mais arrête donc de te plaindre! C'est bon pour le mollet!
On pourrait pas s'arrêter un petit peu?
Ah ça, quand il y a un effort à faire, la Louise, c'est toujours à ce moment-là qu'elle veut s'arrêter.
Allons, mesdames, un peu de calme. Nous allons passer à côté de la maison du général Blondel.
Et qui chécha, le général Blondel?
C'est le général de brigade. Il est directeur de l'artillerie au ministère de la guerre. Il est né à Bolbec et son père était fabricant d'indiennes au Vivier. Mais l'usine fut rachetée par les établissements Lemaître Lavotte. Après cela, son père quitta Bolbec et emmena son fils Richard, le futur général, pour s'installer à Bapaume-les-Rouen, avec qui il travailla. Mais la famille ne prospéra pas dans le textile et Richard Blondel s'enrôla dans l'armée. C'est alors que le brigadier Blondel devient bientôt maréchal des logis chef, puis sous-lieutenant.
Vous pouvez voir sur votre gauche, au 2 de la rue du Général Blondel, la maison qu'il habita.
Doué pour la guerre, il ne cesse de remporter les victoires. De Sébastopol à Malakoff et du Mexique à Veracruz.
Où tché tous ces villages-là?
Eh ben tout ça, chez point en Normandie, je crois ben.
Parfois, la guerre nous emmène même en dehors de la France. Après ses nombreuses batailles et voyages, il revint à Bolbec et se maria avec mademoiselle Fauquet-Bourbon.
Ah ben ça, j'ai bien.
Mais cela ne l'empêcha pas de repartir sur les routes. Il ira même aux États-Unis d'Amérique pour célébrer le centenaire de la bataille de Yorktown. Après tout cela, il finira par être nommé général de brigade.
Eh ben ça, c'est du bon gars de Bolbec qu'a fini général.
Prenez le sens interdit sur votre gauche.
We'll be right back.
continuer tout droit jusqu'au jardin public.
Nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture dès que vous entrerez dans le jardin public au niveau du grand portail vert sur votre droite.
Rentrez par le portail ouvert sur votre droite et descendez par le petit chemin. Ce jardin était le principal jardin public avant les aménagements du Val-Augré. Suivez les bobines.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
D'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui était pas daltonien. Si on casse les vitres quand on joue au football, qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école, c'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
D'où on revient et des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Je joue aux abeilles, le vol du bourdon. Si la reine s'émerveille, mon goûter sera bon. Les mulots gambillent, le hibou vend des poux. Une jolie chenille est venue tremper une soupe au chou. Et un pauvre mille pattes se voit déjà ruiné par 500 paires de savates qui ont besoin de ressemeler.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
D'où on revient des petites fleurs à la main, quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content, de rentrer les genoux tout ensemble. Dire au hérisson qui peut aller se raser, au vieux saule pleureur de pas trop se démoraliser, et à la menthe religieuse de pas bouffer son mec, que même ces dames du MLF trouveraient pas sa correcte.
En descendant, vous voyez en face de vous le fronton de l'entrée de l'ancien jardin d'enfants datant du début du XXe siècle.
Des choux-fleurs, laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs, même les ânes en ont besoin autant que les promoteurs.
Donnez-nous des jardins. Des jardins pour y faire des bêtises.
Admirez en descendant le dôme de l'église Saint-Michel et poursuivez jusqu'à l'hôtel de ville.
Sa chemise, des jardins pleins d'animaux marrants, ça nous changerait un peu nos parents.
Nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture dès que vous serez devant l'hôtel de ville.
Alors chat, c'est de la belle ouvrage.
Vous avez bien raison, c'est l'hôtel de ville. Mais il n'a pas été construit pour ça. Car voyez-vous, au départ, en 1806, si je me rappelle bien ce que me racontait mon père, c'est Jean-Baptiste Lemaître, manufacturier à Bolbec, qui fait construire un hôtel rue de la Fontaine avec un jardin et une fabrique à manège. C'est une manufacture avec une grande roue sur axe entraînée par des chevaux. En 1835, son fils fait transformer la façade et l'agrandit d'une salle de billard. et c'est en 1881 que les héritiers de Gustave Lemaître vendent la propriété à la ville de Bolbec pour y installer l'hôtel de ville. Mon défunt frère, Henri, qui fut maire de Bolbec, y fit installer le téléphone. Et depuis, j'ai laissé l'installation à la mairie.
Tu te rends compte, Louise ? Le téléphone ?
Qu'est-ce que ça ?
Mais oui, tu sais bien, c'est la nouvelle machine qu'ils ont eue à la poste.
Ah oui !
Même qu'on n'a plus besoin de brailler pour s'entendre.
Oui, cher Pochat, on n'arrête pas le progrès.
Regarde, Louise, comme il est beau, l'hôtel de ville.
Regardez cette symétrie.
Que c'est que ça, la symétrie ? Encore une maladie qui s'attrape ?
Mais non. C'est quand tout est pareil des deux côtés. Regarde, si l'on sépare le bâtiment en deux, la partie droite est identique à la partie gauche. Le même nombre de fenêtres. Tout est bien droit.
L'hôtel de ville a une architecture néoclassique, comme de nombreuses maisons à Bolbec. En 1930, la municipalité décide de rénover la façade et transforme le fronton afin d'y installer une horloge publique de style art déco. Il faudra attendre 1982 pour que la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » soit remise sur le fronton du bâtiment. Actuellement, l'ancienne salle de billard accueille les conseils municipaux et les mariages. Tournez le dos à l'hôtel de ville et dirigez-vous vers la gauche, au bout du parking, et empruntez à gauche la rue des Martyrs.
Mettez sur pause et relancez la lecture lorsque vous serez au numéro 23 de la rue des Martyrs.
Remarquez au numéro 23 cette belle demeure.
Mais qu'est-ce que c'est que cette maison-là ?
C'est la maison d'un grand manufacturier. Allons maintenant vers le moulin.
Où c'est que c'est ?
Étoudray.
Avancez tout droit, traversez la rue Victor Deschamps et continuez vers le petit chemin.
Mettez sur pause et relancez la lecture lorsque vous serez arrivé à hauteur de la roue du moulin.
Vous voyez, mesdames, ce moulin fut d'abord un moulin à blé. Il a été démonté par les établissements Fauque et Frères qui utilisèrent les deux grandes roues pour leur usine d'impression de toile.
Avez-vous le courant ? Ça devait pas être facile pour faire la lessive, hein.
Venez, mesdames, avançons un peu. Voyez-vous, à cette époque, l'eau de la rivière, le Bolbec, changeait de couleur tous les quarts d'heure. Savez-vous pourquoi ?
Était de l'eau magique ?
Comme le dieu de vie !
L'eau de la rivière recevait le bain de teinture des cuves de manufacture. Ainsi, l'eau changeait de couleur selon les différentes impressions.
Comme un arc-en-ciel dans l'eau. Ça devait rien être beau.
Les moulins ont joué un rôle essentiel dans le développement de la ville, puisque de nombreuses machines de l'industrie textile se servaient de la force motrice des moulins, puis, plus tard, de l'eau pour activer les machines à vapeur. De ce riche passé restent aujourd'hui ces quelques vestiges. Des 19 moulins qui se postaient le long de la rivière au 19e siècle, seuls 3 sont encore visibles. Le moulin de la Fontaine, dans l'enceinte de l'usine Auril, le moulin Valot, dans la rue des Martyrs, que vous venez de voir, le moulin Séminel, dans la ruelle Papavoine, que vous avez vu. Continuez à remonter la rue des Martyrs, À gauche, vous pouvez voir l'école Pierre Corneille et son petit jardin potager réalisé par les enfants de l'école où sont plantées des herbes aromatiques.
Ah bah ça, c'est comme chez nos cousines l'herbe bouteuse.
La capuchine, qui est ma cousine, elle a un jardin des senteux. Et elle sait soigner les gens avec des plantes.
Ça, c'est sûr. Puis la Lisette, qui est ma cousine à moi, à l'aide, ta capucine.
Par exemple, quand t'as un mal de tête, eh ben tu peux te frotter les tempes avec de l'essence de lavande. Ou le front avec des feuilles de menthe broyées.
Ah bah ça alors. Et puis pour les articulations qui commencent à être un peu raides avec toute cette marche, à la tienne, Armène Miracle, ta cousine capucine.
Pour les raideurs articulaires, c'est bon de boire des infusions de pichenlit, puis d'appliquer le jus des tiges sur les articulations. Ça peut soulager, qu'a dit ma cousine.
Traverser la rue des Martyrs.
Nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture dès que vous serez arrivé à la piscine.
Laissez la piscine sur votre gauche, puis remontez la rue de la Cavée. À la place de l'actuelle piscine, imaginez une usine. L'ancienne usine Fauquet. Témoignage de Madame Colombelle, ancienne habitante des maisons ouvrières.
L'usine Fauquet étant en mauvais état, on n'avait pas accès.
Vous n'avez pas connu cette usine, vous, en activité ?
Non, non, non.
Empruntez le sentier à gauche et longez la rivière, le Bolbec. Témoignage de Monsieur Colombelle, ancien habitant des maisons ouvrières.
Moi, j'ai des souvenirs de rivières de toutes les couleurs. À l'époque, il y avait Gilles Théron. Gilles Théron, c'était une entreprise de teinture, enfin, qui faisait les impressions sur toile. Cette usine, je ne sais pas comment elle faisait, mais elle avait le don de mettre la rivière aussi bien jaune que bleue que rouge, de toutes les couleurs. Et ensuite, quand on allait chercher le pain, parce que j'allais chercher le pain pour moi, pour mes voisines aussi, et j'avais le droit à un petit sou à l'époque, quand je revenais, parce que j'avais été faire les commissions des voisins et voisines, et j'aimais bien regarder la couleur de l'eau, et même sentir l'odeur d'une entreprise qui est maintenant disparue, qui était au bord de la rivière, qui s'appelait l'entreprise Supplisson. Ils étaient en... Dans cette entreprise, ils faisaient du cuir. Ils lavaient le cuir, il y avait une odeur. Pour certains affects, même moi, je l'aimais.
Témoignage de Monsieur Lenôtre, ancien directeur de l'usine de Genetech.
J'ai vu passer pas mal de monde. Il y en a que j'ai élevé au biberon, puisqu'on embauchait les gens à 14 ans, à l'époque, et qu'on les formait sur les machines.
Madame Colombelle.
À 14 ans, j'ai voulu aller travailler, mais j'ai regretté après.
Mais à 14 ans, aujourd'hui, on a encore un gamin. À cette époque-là, vous étiez suffisamment mûr pour aller bosser ?
Si, oui, oui. Et on faisait l'écart. Et c'était dur, ça. Parce qu'on se levait le matin à 4 heures du matin pour être à 5 heures au travail. On faisait une semaine le matin, une semaine l'après-midi. Et on faisait 45 heures.
J'ai fait deux classes, une quinzaine de garçons et de filles de 14-15 ans. Et puis, avec une monitrice dans chaque équipe, et on s'est mis à former les gens, donc avec du, entre parenthèses, du déchet, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour un travail comme ça. Et puis, à 14 ans, c'était pas l'époque d'aujourd'hui, mais quand même de beaux petits chahuteurs quand même. Hein. Donc, il y en a qu'on s'est séparés, ça c'était obligatoire. Par contre, il y en a d'autres que j'ai réussi, pour qu'ils ne perdent pas de travail, bah, de les faire passer d'un poste où ils n'étaient pas adaptés, suivant les possibilités, à un autre poste où ils ont pu progresser.
Prenez à droite la rue Pierre-Fauquet-Lemaître. Voici la salle Paul Martin.
Nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture lorsque vous serez devant la salle Paul Martin, à 150 mètres sur votre gauche.
Voyez-vous ça, la grande maison ? C'est bien plus grand que la ferme du Pêche-à-Foin.
Bon, ça, c'est pas en vrai. Il doit y en avoir des vaches là-dedans.
Mais pas du tout. Ici, c'est là que M. Fauquet stocke toutes ses matières premières.
C'est quoi que ça encore ?
C'est tout ce qui nous sert à fabriquer du tissu. Par exemple, les ballots de coton. Et comme ça prend vite feu, ils ont préféré les entreposer à l'écart de l'usine, de l'autre côté de la rue.
Ah bah ça, c'est pas bête, hein. Tu vois, Javotte, si le gars au Pêche-à-Foin, il avait fait ça avec les ballots de paille, eh ben il aura pas mis le feu à l'étable.
Ah bah ça, c'est sûr. Et puis, il y avait pas de lieu dans le coin ?
Il y a bien une source à droite de la salle Paul Martin. Allez, avancez par là, nous avons encore de la route.
Continuez sur la rue Pierre-Fauquet-Lemaître. Auguste Fauquet-Lemaître, propriétaire de ce bâtiment de stockage qu'est la salle Paul Martin, avait la possibilité, grâce aux conditions de son acte de vente, de pouvoir utiliser 100 litres d'eau par minute pour lui et ses héritiers pour les besoins de son établissement industriel. C'est en 1938 que le bâtiment fut vendu à la ville de Bolbec. Ce bâtiment fut transformé en salle d'éducation physique et actuellement, il abrite l'école de cirque Les Zouaves.
Il faut que nous allions jusqu'à la chapelle.
C'est que vous aimez bien les bondieuseries, vous. Il paraît que depuis peu, ils ont séparé monsieur le curé de monsieur le maire. Alors vous savez tout ça, nous, hein, ça nous dépêche. Pour nous, du linge, c'est du linge. Et c'est pas le bon Dieu qui va faire notre lessive.
Ah oui, vous voulez dire que depuis cette année, l'église et l'État sont séparés. Eh bien ça, c'est sûr que ça va changer pas mal de choses. Venez par ici, nous allons voir la chapelle Sainte-Anne.
Dommage qu'il n'y ait pas la Sainte-Bourrique, parce que la Louise, elle pourrait y aller souvent.
Un peu de respect, Madame Javotte. C'est grâce à mes dons qu'elle a été construite, cette chapelle. Et c'est à la mémoire de mes parents, pèse à leurs âmes, et enfin pour ma femme, qui est morte pendant la construction. Et c'est pour cela qu'elle s'appelle la chapelle Sainte-Anne, car c'était le prénom de ma défunte femme.
Tu vois, Javotte, c'est pour bien malin de se moquer des pauvres gens.
Me v'là toute retournée. Je suis ben désolée, monsieur Louis. Je voulais pas vous manquer de respect. Eh ben, c'est une ben triste histoire. Heureusement qu'il y a encore votre fille.
Nous passons actuellement devant la sente du dernier sou qui montait à la plaine du même nom. On suppose que dans cette ruelle se trouvait le dernier café avant d'arriver aux usines. Les ouvriers s'arrêtaient dans ce sou pour prendre un dernier café calva avant d'aller travailler. Vous passez également à proximité de la ruelle de la Petite Boîte. Cette ruelle menait à la filature Gaston Lemaître qui se trouvait juste en face. Cette filature était surnommée la Petite Boîte, ce qui explique le nom de la ruelle.
Si vous n'êtes pas arrivé à la chapelle, nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture lorsque vous serez arrivé devant la chapelle Sainte-Anne sur votre droite.
En 1905, lors de la séparation de l'église et de l'État, les biens de la chapelle sont répartis entre le bureau de bienfaisance et l'hôpital de Bolbec. Remarquez cette chapelle, construite dans un mélange de styles byzantin et cauchois, tout en conservant une large part de sa modernité. Les fresques ont été réalisées par M. Paul Baudouin, célèbre fresquiste rouennais. Hormis quelques détails de décoration, cette chapelle a été entièrement construite par des entrepreneurs bolbéquais. En 1907, la fille de Louis de Génétais, Marguerite de Castelbajac, hérite de la chapelle et en fait don au diocèse de Rouen.
Monsieur Louis, pouvez-vous nous lire ce qu'il y a écrit là-haut? Je connais point ce langage.
C'est du latin. C'est la devise de cette chapelle. Venite ad me omnes qui laboritis et ego reficiam vos.
Oh, qu'est-ce que c'est que tout charabia? On se croirait avec monsieur le curé à l'église.
Ça veut dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués par le travail, et je vous reposerai.
Oh ben ça tombe bien, parce que mais je me serais bien reposé un peu.
Non mais tu crois que c'est à toi qu'elle cause la chapelle? Allez, faut que tu t'émoques un peu.
Laissez la chapelle dans votre dos, empruntez le passage piéton et dirigez-vous vers la rue Auguste Desgénétais. Ça vous dit quelque chose? Allez, un petit indice. On le nommait aussi le roi des tisseurs. Bien sûr, c'est le père de Monsieur Louis Desgénétais. À gauche, avant d'arriver à l'usine, vous pouvez voir la maison que Monsieur Louis Desgénétais a fait construire pour sa fille.
Si vous n'êtes pas encore arrivé à la grille de l'usine, nous vous invitons à mettre sur pause et à relancer la lecture lorsque vous serez arrivé à l'entrée de l'usine. Arrêtez-vous en arrivant devant la grille de l'usine.
Ah, nous y voilà. Le clou de cette visite. L'usine Déjeuner tes frères, dont je suis maintenant le directeur. Voyez-vous, mesdames, cette usine est la fierté de notre belle ville, construite par mon oncle et par mon père, Auguste, en 1853. On y fabrique du fil et des toiles de coton. De nombreux travaux y ont été effectués, notamment, on y a implanté les grands bureaux, des hangars à coton et des écuries, une maison pour le directeur de la filature, et on y a installé une nouvelle machine à vapeur.
C'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
C'est pas moi, c'est ma sœur qui a caché de la machine à vapeur!
As-tu pas donc fini de faire l'andouille?
Oh, bah si on peut plus rigoler!
Ici travaillent 800 ouvriers répartis dans 250 métiers.
Ben ça en fait du monde!
Et qu'est-ce qu'on y fabrique?
Du fil, des pièces de coton, calicot, des mousselines, des crétonnes ou encore des siamoises, tissus métis fait d'une chaîne de lin et d'une trame de coton.
Oh, bah ça, c'est du travail, hein?
Vous pouvez visiter l'atelier musée du textile créé par une équipe de bénévoles, composée d'anciens ouvriers de l'usine. Ils ont reconstitué toute la chaîne de la fabrication, depuis la balle de coton jusqu'au tissu fini. Des visites commentées sont proposées au public.
Chez nous, même les bézos y travaillent, mais j'avons commencé à travailler toute morpette.
Ici aussi, les enfants travaillent, mais sous certaines conditions. Entre 5h du matin et 9h du soir, pas plus. Et pas plus de 8h pour les 8 à 12 ans. Et pas plus de 12h pour les 12 à 15 ans.
Ah oh ben ça, c'est bien, monsieur Desgénétais. Ça, c'est réglementaire.
Puis en plus, ils ont des temps de repos à l'usine.
L'usine Desgénétais a connu une grande prospérité grâce à la famille Desgénétais. La première conciergerie est encore visible. Ce bâtiment rose au deuxième plan, à droite, qui marque l'ancienne entrée de l'usine. De même, nous pouvons encore voir les bâtiments en chêne, les fameux bâtiments en dents de scie. La famille Desgénétais conservera cette usine jusque dans les années 1930, où elle sera reprise par Marcel Boussac. Dès 1960, le déclin du textile est amorcé. En 1975, suivra la fermeture des usines Desgénétais-Boussac, reprise par Fildard, qui fermera en 2002. Témoignage de M. Deveau, ancien ouvrier de l'usine Desgénétais.
J'ai quand même des bons souvenirs de chez Boussac. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de travail, mais on a bien rigolé parce que t'es garçon et fille à 14 ans, comme ça que ça se passait. Et puis, mon directeur, qui était monsieur Lenoute, il a vu des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bien, qui nous a appris un petit peu, mais il n'a pas tout vu. On était plus malin que lui.
Laissez l'usine derrière vous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les usines de textile tournent au ralenti. Après la guerre, le boom social et la reprise des activités contraignent les industriels à acheter des autobus et à recruter une nouvelle main-d'œuvre dans les campagnes. Dans les usines, le travail au quart est institué et pour la première fois arrivent des équipes de nuit. Bolbec, vous l'aurez compris, fut une importante cité du textile. Dès le XIVe siècle, les fabricants de tissus de laine, appelés drapiers, sont installés dans le bourg. Ces drapiers fabriquaient une étoffe de laine très grossière, appelée froc. Ces toiles étaient utilisées pour l'habillement des matelots ou encore pour vêtir les troupes. Bolbec va développer jusqu'au XXe siècle une industrie cotonnière considérable et connaître des heures de gloire, avec des productions de renommée comme les siamoises, les indiennes qui sont des tissus imprimés, les blancards, les mouchoirs de Bolbec ou encore le tissu Vichy, rendu célèbre par Brigitte Bardot. Veuillez prendre à droite la Sente du Vivier.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Pour toi, toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, 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 je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé.
Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo.
Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi.
Voici maintenant la Sente du Vivier, qui mène les ouvriers à la cité des maisons ouvrières.
Bon, dites donc, hein, ça grimpe.
Bon, arrête donc de te plaindre, t'es vraiment qu'une feignante.
C'est pas ma faute, à moi. J'ai les bancs en carcaillot, puis les gambettes en coton.
Allons, mesdames, sachez que les ouvriers de l'usine Déjeunetais montaient cette sente plusieurs fois par jour, et sans se plaindre.
C'est ce que je dis. À se plaindre tout le temps.
Et que j'ai pas du boulot de monter ce chemin-là.
Imaginez qu'aux heures de pointe, un flot d'ouvriers égayait les rues par leurs paroles et leurs cris.
Extrait du livre « Du sang sur la falaise » de Marion Gilbert, ancien écrivain ayant vécu à Bolbec au début du XXe siècle. Aux heures d'entrée et de sortie, la ville morne s'emplissait du flot des ouvriers. Alors, une poussée de vie l'égayait, du mouvement, des paroles, troublait le demi-sommeil des rues paisibles.
Bah regarde, Javotte, là, elle prend le gars au pêche-à-foin.
Ben si. Qu'est-ce que tu fais là, mon gars?
Ben, j'embauche à l'usine tous les matins, puis là, j'ai fini, m'en va prendre mon petit chou.
Puis tu rentres chez ton père?
Ben non. J'ai une maisonnée, la plus haut, à la cité des ouvriers, Fauquet-le-Maître.
Chez où, ça, la cité des ouvriers?
Avancez jusqu'au bout de la Sente du Vivier. Au XIXe siècle, l'industrialisation amène à Bolbec un grand nombre d'une précieuse main-d'œuvre. Des logements sont construits à la hâte, les familles s'y entassent, sans système de sanitaire convenable. L'épidémie de choléra de 1832 va réveiller les consciences. Et, suite à la conférence de Jules Siegfried, les manufacturiers créent la Société des cités ouvrières de Bolbec, l'ancêtre des HLM, que nous connaissons aujourd'hui. Grâce à elle, des logements salubres sont construits et, moyennant un modeste loyer, les familles peuvent enfin devenir propriétaires. On retrouve plusieurs cités ouvrières à Bolbec. La cité circulaire du Val-Ricard, la cité de l'usine à gaz rue de Lente, la cité Fauquet-le-Maître, la cité Debray, située sur les hauteurs, ainsi que la cité du Mont de Bolbec. Ou encore, en face de la Sente du Vivier, la cité Quartier du Roussy, qui doit son nom à l'usine installée dans le quartier qui faisait flamber les toiles de coton. Témoignage de Monsieur et Madame Colombelle, anciens habitants des maisons ouvrières.
C'était des maisons grandes pour loger tout le monde. Et comme on était une famille nombreuse, il n'y avait aucun problème. On avait 4 chambres et il y avait une très grande chambre où toutes les filles étaient ensemble.
Alors comment c'était organisé? Les parents allaient au boulot, vous alliez à l'école, ça se passait comment une journée?
Alors, la mère ne travaillait pas à l'époque, mais mon père travaillait dès l'instant que les enfants avaient 14 ans, ils allaient au travail. Il fallait que je sache comment était fait un jardin, comment le cultiver, il fallait que je participe aux tâches extérieures.
C'est-à-dire que chacun avait un petit bout de jardin devant sa maison?
Tout le monde avait un morceau de jardin, puisque c'était un complément pour le manger de chacun. Alors chacun cultivait son morceau de jardin, mangeait avec ce qu'on récoltait. Quand c'était l'époque des haricots, on faisait les conserves, tout ce qu'il y avait pour aider la petite paye que ramenait mon père.
Racontez-nous un petit peu comment c'était la vie dans la cité. C'était, les gens étaient solidaires les uns avec les autres, comment ça se passait?
Oh, très solidaires. Quand une personne avait une difficulté en fin de mois, l'autre était bien là pour l'aider sans aucun problème. C'était vraiment une vie en société, et en société de quartier. On n'allait pas se mélanger avec d'autres quartiers.
Comment vous êtes passé de la cité du bas à celle du haut à l'âge de 12 ans? Pourquoi?
Pourquoi? Parce que la maison était plus importante et avec plus de confort. Parce que nous étions trois enfants et la maison devenait un peu petite, quoi.
Donc comment ça se passait? On habitait la cité du bas, on demandait à avoir quelque chose là-haut et dès que ça se libérait, éventuellement, c'était pour vous.
Oui, oui, oui. Il facilitait le transfert.
Quel souvenir vous avez, gamin? Il y a quelque chose qui vous reste à l'esprit?
Dès qu'une personne, il y avait un mariage, une communion, tout le quartier venait pour aider, puisque bien souvent, ça se passait au dernier étage de la maison, qui était le plus grand, qui était un grenier, qui était la pièce la plus grande de la maison. Et tout le monde aidait pour passer les plats, monter, tous les bons âmes venaient. Et pour aider, non pas pour manger. Hein. Et j'ai les aidé pour leur repas et tout se passait en famille. Plus tard, on a même ouvert à l'extérieur pour avoir de la place pour plusieurs familles.
C'est marrant parce que lorsqu'on parle cité ouvrière, on a le sentiment d'une vie difficile, où l'on peine beaucoup, où éventuellement on manque de tout. Et vous nous répondez convivialité, solidarité, bonheur, j'ai l'impression.
Absolument. C'est ce que j'en ai vécu. J'ai toujours été... Même si on n'avait pas l'argent, mais on avait la joie de vivre, l'amitié des voisins, une ambiance, pour moi, toujours joyeuse.
Quel souvenir vous avez, enfant, de cette vie dans cette cité?
Ah, c'était super parce qu'on avait des voisins et on s'entendait bien avec les voisins. C'était gai. Comme papa travaillait chez Déjeuner, on avait la chance d'avoir plein de choses aux établissements Déjeuner. Par exemple, les Noëls qui étaient très importants. C'était une grande fête. Et pour nous, ils nous apportaient beaucoup de choses. Peut-être que les parents n'étaient pas... Enfin, papa n'était pas beaucoup payé, mais on avait beaucoup d'avantages. On avait l'école, on avait la boutique.
Donc, ça serait à refaire. Vous le referiez?
Absolument, et sans aucun problème.
Si vous n'êtes pas arrivé devant les maisons ouvrières, situées en hauteur sur votre droite, nous vous invitons à mettre sur pause.
Regardez et admirez ces jolies maisons que la Société des Cités Ouvrières a fait construire. En effet, les manufacturiers de Bolbec, suite aux grandes épidémies où les ouvriers ont payé un lourd tribut à cause de logements insalubres, se sont regroupés en une Société des Cités Ouvrières et ont fait construire de petits logements destinés aux ouvriers les plus méritants.
Bah, c'est ça que je voudrais aimer. Une petite bicoque, rien qu'à mouer, parce que je le vaux bien. Et puis parce que je travaille.
Arrête donc de dire des bêtises. T'es logé à la ferme, avec nous autres.
Avec la Société des Cités Ouvrières de Bolbec, nous avons rendu plus facile l'accession à la propriété pour nos ouvriers et leurs familles. Ceux-ci disposent d'un plein pied ou d'un étage, avec cuisine, salle à manger, chambre... Cellier avec WC et jardin.
Et qu'est-ce que ça, un WC?
C'est de l'anglais. Ça veut dire water closet.
Water closet? Et alors?
C'est la tinette, Louise. Mais la différence, c'est que dans la maison ouvrière, la tinette, elle est dans la maison. Plus dehors.
Bah ça alors, c'est de la modernité, ça.
Voilà, mesdames. Notre balade est à présent terminée.
Bon, c'était une ben belle histoire, monsieur Desgenetet.
Puis nous v'là ben moins bête qu'avant. Surtout toi, la Louise. Ben, merci pour la visite. Puis nous autres, on s'en va terminer la matée.
Bon, ben le bonjour chez vous, hein.
C'est ça, puis boujou, puis des gommes aux petits bezos.
C'était un plaisir, mesdames. Bonne journée à vous. Et n'oubliez pas de transmettre cette belle histoire.
Vous pouvez reprendre l'escalier fabriqué par M. Leduay pour les ouvriers. Ils l'empruntaient plusieurs fois par jour et l'entretenaient eux-mêmes. La balade est à présent terminée. Vous pouvez prendre le chemin du retour en suivant les bobines.